Nous sommes d'après Aleph Amoud Aleph. On était toujours à la recherche du lav de ne pas mon j'ai pendant Kippour. Vinetemet Napsotechem, ce n'est pas vraiment marqué dans une forme de lav. Alors on avait d'abord une première explication, après on va un Hekesh, Malacha avec Inouï. Comme pour Malacha, il y a Karet, il y a un lav. Comme ça pour le l'interdiction de manger, il y a un Karet et un lav. Parce qu'en vérité, toute cette sugya, elle est basée sur un yosod. Il y a un yosod dans tout le chas qui s'appelle Lo Anash Elem Ken Hizhir. Dans la Torah, il y a des choses que la Torah nous dit, ne fais pas telle et telle chose. Et si tu fais telle et telle chose, tu es puni par telle et telle punition. Par Malkout, par Karet, par Riyev Mita Bede Shemaim, Riyev Mita Bede Adam, etc. Maintenant, il y a un principe que la Torah ne se contente pas d'écrire la punition. Ce qui fait ça, il est puni ça. Il faut que la Torah marque l'interdiction. C'est interdit et ce qui transgresse, il est puni. Jamais la Torah ne se contente de dire une punition sans azara. C'est psychologiquement qu'on dirait que c'est très important. On dit à quelqu'un, si tu fais ça, tu es puni. Mais j'ai le droit de le faire ou pas? Mais déduire, tu peux déduire. Non, il ne faut pas déduire. Il ne faut pas, la Torah ne marche pas. Que les gens ils font des interdictions par déduction. Parce que c'est, on est, si on fait ça, on est puni, donc c'est une preuve qu'on n'a pas le droit de faire. Ça, c'est un raisonnement qui n'est pas à 100% valable. Peut-être on est puni, mais en vérité, on a le droit de le faire. Un homme, il peut dire, écoute, tu peux le faire, mais si ça arrive un accident, tant pis, eh ben, c'est fautif. Mais je ne t'interdis pas de le faire, mais bon. Alors, un homme, il aurait pu comprendre comme ça, comme si le bon Dieu, il dit, je ne vous interdis pas, mais vous risquez, vous risquez. La Torah nous dit, je t'interdis de faire. Et après, si tu fais, tu es puni. Et donc, chaque fois qu'on te trouve dans la Torah une punition, et il n'est pas clairement marqué une interdiction, la Gemara cherche où elle est cette interdiction. Il faut que quelque part, cette interdiction se trouve. Et ça s'appelle ce principe, Eloi anash shakatuv elein ken hizhir. Alors ici, l'Avdil chez les Goïm aussi, je pense que la loi est comme ça. Ceux qui boivent, ceux qui roulent en voiture avec un promille, eh ben, on le punit le retrait des permis. Mais à part ça, il est marqué dans le livre de conduite, il est interdit de prendre la voiture quand on a un promille dans le sang, ou peut-être même moins. Il y a d'abord une interdiction, après il te dit la punition, on ne se contente pas de parler d'une punition. Alors, donc, on cherche ici, il n'est pas marqué dans la Torah un lave, il est marqué in item, vous devez vous mortifier. Donc, c'est un assay, vous devez vous mortifier. Donc, sous-entendu que je n'ai pas le droit de manger, c'est ça qu'on appelle un assay, ou plutôt un issur assay. Quand la Torah nous dit, fais ça, et je déduis, ne fais pas le contraire. Et ce n'est pas marqué clairement, ne fais pas cette chose-là. Alors, on ne peut pas être chayav malkout si ce n'est pas marqué l'autre assay, ne fais pas telle et telle chose. Alors, pour ici, pour l'interdiction de manger, ça n'est pas marqué clairement le lave. C'est pour ça que Marie le cherche. Donc, hier, on avait vu qu'il y a un avis qui le déduit par, il y a un avis qui le déduit par le Hekesh entre le Lotase Kol Malacha, Yom Kippur Lotase Kol Malacha, Chola Ose Malacha, Benichat Me'amav, et vis-à-vis de ne pas manger, la Torah nous dit fais un essai de vinitem, tu vas te mortifier. On cherche le lav. Rav Achaba Yaakov Amar. Qui sait comment il s'appelait le père de ce rav?
Yaakov,
il s'appelait Yaakov. Alors, Rav Achaba Yaakov Amar, Yalif Shabbat, Shabbaton, Mi Shabbat, Bereshit. Donc, Yom Kippour, il est marqué Shabbat, Shabbaton, et Shabbat, Bereshit. Il est aussi marqué Shabbat Shabbaton, Shabbat Bereshit. Le Shabbat classique s'appelle dans la Gemara pour le distinguer vis-à-vis de Yamim Tovim. La Yam Tov, des fois, il s'appelle aussi Shabbat, Mimochorat Shabbat. Le Yom Kippour, il s'appelle aussi Shabbat, il s'appelle Shabbat Shabbaton. Maintenant, pour distinguer le Shabbat de chaque semaine de Shabbat de Kippour, alors on l'appelle Shabbat Bereshit. Pourquoi on appelle Shabbat Bereshit? Parce que lui, il existait dans Parshat Bereshit depuis le début de la création. Ça, c'est marqué à la fin du premier chapitre de Bereshit. Donc, le Briat Olam, 6 jours. Après, le 7e jour, c'est Shabbat. Donc, ça, c'est le Shabbat Bereshit. Le Kippour n'existait pas à l'époque. Le Kippour, c'est quelque chose qui ne venait qu'à partir de Yetziat Mitzrayim. Et à partir de Yetziat Mitzrayim. Les Yamim Tovim, c'est à partir de Yetziat Mitzrayim. La mitzvah d'appliquer Shabbat, c'est un peu avant Har Sinai. Mais le Moussak Shabbat existait depuis le Briat Olam, car Kadesh Baruch Hu, il se reposait kilo. Il a déjà donné une kdusha. Le premier Shabbat était déjà kadosh. Alors, il y a Shabbat Shabbaton, mais Shabbat Bereshit. Donc la Torah, elle a comparé, elle a appelé Shabbat. Shabbat Shabbaton, l'après Kippour, Shabbat Shabbaton, enfin Gzera Sheva. De la même façon que pour le Shabbat Bereshit, la Torah n'a pas puni que si elle fait un avertissement, elle dit toujours l'Otasekou Malacha. Ainsi, la même chose pour Yom Kippour, la Torah n'a pas puni, Tov Si Elta fait un avertissement. Rav Papa Amar, Rav Papa, il dit, Hu Gufei Shabbat Ikre. Lui-même, il s'appelle Shabbat. Le Kippour, il s'appelle Shabbat. Dichtiv Tishpetu, Shabbat Echem. D'accord. Alors donc, la Torah l'a comparé Shabbat, pas Midin Hekesh. La Torah l'appelle Shabbat. Donc, c'est les dynimes de Shabbat, que toutes les punitionnimes de Shabbat, ils sont toujours devancés par des interdictionnimes. Bishlam Rav Papa, l'homme à Rav Abba Yaakov. Donc, on a Rav Papa et Rav Abba Yaakov. Rav Abba Yaakov par un Hekesh. Et Rav Papa, il dit que le Kippour lui-même, il s'appelle Shabbat. Pourquoi Rav Papa refuse Rav Abba Yaakov? Dikra dichtiv begufe adif, parce que mieux vaut trouver un pasouk de Kippour lui-même. Pourquoi chercher par un hekesh? Si je peux le trouver tout seul, il ne faut jamais chercher loin quand on peut trouver quelque chose proche. Il y a des gens qui ont un principe dans la vie, ce qu'on peut chercher loin, on ne cherche pas proche. Il y a des gens qui ont un principe, ce qu'on peut chercher proche, on ne cherche pas loin. Eh bien, papa, il adhère à la logique quoi, que si on peut trouver proche, on ne cherche pas loin. Pourquoi il ne dit pas comme Rav Papa? Pourquoi il cherche loin? Parce que ce pasuk, il a besoin pour une autre drasha. Nechedetanya pour la braïta. Vinetem napshotichem betisha lachodesh. Vayikra kav gimel. Alors, vous avez Vayikra kav gimel. Vayikra kav gimel, c'est Eparshat Emor. C'est chapitre 23, verset 32. On parle ici de Kippour. Shabbat, Shabbaton, Hulachem. Le Shabbat, le top Shabbat, le Shabbat du Shabbat sera pour vous. Vi'initem et napshotichem, vous allez faire souffrir vos âmes. Betisha lachodesh, le 9 du mois. Ba'erev, le soir. Alors, regardons d'abord verset 27. On revient à quelques versets avant, verset 27. Ach seulement, Be'asor, lachodesh ashvi, le 10. Du septième mois, Azé, celui, ce mois-ci, Yom Kippourim, c'est Yom Kippour. Mikra Kodesh Yelachem, il n'était maintenant que vous allez faire sur vos âmes, Mikra Vtimishelachem. Alors ici, la Torah nous parle du 10 de Tishri. Maintenant, on revient, Pasuk Lamed Bet. Shabbat Shabbaton Ulachem, il n'était maintenant que vous allez Betisha Lachodesh Va'erev. Le 9 du mois, le soir. Alors, ça, c'est un peu bizarre, le 9 du mois. Ça peut nous faire croire qu'on jeûne le 9 du mois. Et avant, il est marqué, c'est le 10 du mois. Donc, Tisha B'Chodesh L'Erev, il faut dire quand il a terminé le 9e jour et la nuit du 10e est arrivée, on entame le jeûne. Alors, la Torah parle du 9 du mois. C'est en trop, il ne faut pas parler de neuf. On avait dit le 10. Il faut dire le 10 du soir jusqu'au soir. Mais la Torah nous dit le 9, Erev le soir, mais Erev, ad Erev, du soir jusqu'à la soirée, Tishbetu, Shabbat Echem. il y a trois fois le mot Erev, un après l'autre, trois fois. Ba'erev, mais Erev Aderev. C'est spécial, ça. Ba'erev, mais Erev Aderev. D'abord, mais Erev Aderev, du soir jusqu'à la soirée. Oui, tous les jours, c'est comme ça. Shabbat aussi, c'est comme ça. Qu'est-ce que la Torah veut nous ajouter? Il faut dire, ne crois pas que tu vas jeûner, que la journée et pas la nuit. Parce que Yom HaKippurim, où? Ah, tu peux dire Yom HaKippurim, le jour, mais pas la nuit. Alors, Torah nous dit, non, sache bien, c'est pas que le jour, c'est Me'erev ad Erev. Ça commence bien le soir et ça finit bien le soir. Alors, mais on dit en plus, c'est le 9 du mois le soir. C'est bizarre, la Torah n'a jamais dit cette expression, le 9 du soir. Alors, on va dire, qu'est-ce que la Gemara nous raconte? Alors, Béti, alors, Vinitem et Nafshotichem, Béti Shalachodesh, Yachol, j'aurais pu croire, Yatril, Vitane, Béti Shah, peut-être il faut commencer jeûner le 9. C'est que le soir. Iba Erev, si la Torah nous dit le soir, Yachol Mishetershach, j'aurais pu croire une fois que la nuit tombe, Talmud Lomar, Betisha, il faut jeûner le 9. Alors c'est contradictoire. Il faut jeûner le 9 ou il faut jeûner le 10? Hakitzat, Matril Umit Ane Mibodium, il commence à jeûner quand c'est encore jour. Mika, ici on déduit, ce Mosifin, Michol à la Kodesh. Il faut ajouter du chol sur la Kodesh. Il faut quelques minutes. Avant qu'il arrive le soir, il faut déjà arrêter de manger. Mais Tisha la Kodesh, tu commences le 9. Mais vraiment, tu commences que bas RF. Alors, en liela biknisato. D'ici, je ne vois qu'à l'entrée. Bitsiato minayin. À la sortie d'où je sais que je vais encore ajouter un peu. Amod Lomar, mei erev ad erev. Comment donc mei erev de la soirée jusqu'à la soirée? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Pour ajouter Motsaï Kippour. Où ça se trouve dans le mot mei erev ad erev?
L'autre erev, le erev du deuxième jour.
Oui. Le erev du 11, c'est-à-dire de la nuit d'un 10 au 11. Mais où il est marqué qu'il faut que je jeûne quelques minutes dans le 11e jour?
Parce qu'on a appris, la Tosefet pour le premier rêve. Et vu qu'on on fait une sorte.
Oui. Pardon? Mais comment j'ai appris la Tosefet pour le premier? Parce qu'il est marqué Betisha. Betisha la Chodesh. Alors si la Torah il avait dit mais Erev, ad Erev Achadassar. Le 11. Alors, j'aurais compris qu'il faut entamer un peu du 11. Mais il n'est pas marqué ici, le chiffre 11. Alors, comment j'apprends?
Puisque le mais Erev, c'est aussi la Tosefet, alors Erev, c'est aussi Tosefet. Ad Erev. Puisque le premier Erev, on a appris que c'était Tisha, c'était le 9. Alors, le.
Tisha la Chodesh, ba Erev. Donc, le ba Erev veut inclure un peu le jour, mais Erev. Ad RF, le deuxième RF, ça veut dire c'est un RF élargi. Il faut l'élargir, ce RF.
Pas nécessairement. J'inclus le jour, mais Brodium. Maintenant, que si je dois poursuivre à la sortie, ça, je le déduis peut-être par Misvara.
Non, mais la Gemara cite un verset.
Biyetzi atomi. Verset me permet de faire une dosef et mi Brodium, puisque c'est le neuvième jour. Mais le verset ne me fait pas faire une tosefet après. Peut-être non, qu'après, c'est simplement misvara, puisque je l'ai pris.
On vient de déduire.
Non, mais la Gemara ne dit pas svara. La Gemara nous dit bietziato minayin. À la sortie minayin, d'où je sais que je dois encore ajouter quelques minutes. Talmud Lomar, la Gemara ne dit pas une svara. La Gemara dit Talmud Lomar. Je l'ai déduit du verset, mais erev ad erev. Ici, mais Erev ad Erev, l'effet ad Erev. Mais Erev ad Erev, le deuxième Erev, c'est un Erev élargi. Il y a quelque chose, un truc ici.
Non, mais quand il dit mais Erev ad Erev, il faut continuer la lecture. Parce qu'après, c'est marqué Tishbetu Shabbatechem. Et quand c'est marqué Tishbetu Shabbatechem, on avait vu l'autre fois, Shabbat, il faut toujours rajouter les osifs.
Non, ça, c'est pas pour le moment. Ça, c'est après. Attends. Ça c'est après. Ça, c'est le prochain morceau. Tu parles du prochain morceau. Vein li el yom kippourim. J'aurais pu croire que ce soit yom kippourim en din de Tosefet. Yom kippourim, il faut ajouter avant et après. Yamim tovim ou shabbatot minayin. Les autres shabbatot, qui me dit qu'il faut ajouter? Alors, de l'omar, shtishbetu. D'où je sais les autres shabbatot? Le mot Tishbetu veut m'inclure que tous les Shabbatot, c'est comme ça. Et il y a le Shabbatot. J'aurais pu croire sur mon Shabbatot, Yamim Tovi Minayin. D'où je sais que même Yom Tovi Andin de Tosefet. Dans votre repos, dans vos jours de repos. Et tous les jours de repos, c'est la même loi. Hakitzad, Kol Makom Shene Mar Shvot. Chaque fois qu'on te la tourne au Shvot, tu ne vas pas travailler, un jour de ne pas travailler, alors, Mosifin, Michol Alakodesh, il faut toujours ajouter de Chol Alakodesh. Alors, il y a la vie, beaucoup de Rishonim, c'est un din minatora. Il y en a d'autres qui disent que c'est pour les autres Shabbatat, Yamim Tovim, c'est Midrabanan. Quelle est bien la logique qu'il faut ajouter? Quelle est la logique de la Torah qu'il faut ajouter un peu avant, un peu après? Pourquoi? La Torah, elle voulait le septième jour. Alors, le septième jour, ça va. Elle voulait un jour de Kippour. Hein? Kippour, pourquoi il faut gratter 10 minutes avant que 10 minutes après?
Pour rester dans la sainteté.
Pour pas enlever 5 minutes et enlever 5 minutes.
Déjà, il y a une difficulté à savoir quel est le changement, Benach Machot, entre la Shkia et la sortie des 3 étoiles. Donc, déjà, la détermination, elle n'est pas claire. Dans la Gemara, je crois que c'est à Brachot, je ne sais plus.
Donc, non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est que les gens sont des ignares. Le bon Dieu n'est pas un ignare. Le bon Dieu, il a fixé exactement. Les gens, ils ont oublié si ça commence, à quel moment ça commence. Ça, c'est les hommes. Mais on ne parle pas des hommes. On parle maintenant de Dieu. Dieu, il a dit des choses clairement. Non, ils ne savent pas. C'est autre chose.
Maintenant, on peut enlever 5 minutes.
À ce moment, on peut enlever 5 minutes. Shabbat, maintenant, la Torah nous dit, tu sais, quand il commence le Shabbat, il y a un din de Tosefet. Il faut ajouter, quand tu sais exactement quand c'est le Shabbat commence à la Torah, tu es obligé d'ajouter quelques minutes avant. C'est quoi la logique d'ajouter?
Pour pas enlever 5 minutes.
Il nous aime bien, il nous rajoute dans Yom Kippour, il y a plus de... Il y a, comme ça, tout de suite, on...
Alors,
on
pourquoi est... il ne fait pas, pendant Hanouka, une journée de jeûne, qu'ici, il nous aime bien?
Non, Kippour, il y a
un pardonner.
Non, il y a un limout pour dire que c'est comme si on a jeûné le 9 et le 10. Pour Kippour, c'est
après. Ça, c'est après. On n'est pas maintenant. Ça, c'est après. C'est un autre drasha. Dracha vient plus tard.
Un être humain, quand vous lui donnez juste...
C'est quoi la logique de Tosefet?
Un être humain, quand vous lui donnez juste, il a tendance à enlever.
Ah. De peur qu'on va entamer. Ça veut dire, si la Torah nous dit ça commence pile à 6 heures, la soirée commence à 6 heures, peut-être lui va commencer à 6h05.
Les VIP rentrent en premier. Quand
seulement
je suis invité dans une
fête. Seulement
si il est pile. Dans une fête à 19h. Et moi, et je viens à 18h et je commence à goûter le goût avant, et ben Dieu y m'aime plus.
Seulement peut-être, l'homme, il est en train de manger. Et si on te dit, tu peux manger jusqu'à 18h, la 18h c'est la nuit, alors il va se tromper, il va manger encore 1, 2, 3 minutes, et en plein manger, il va continuer à manger. Donc la Torah nous dit, pour pas arriver à manger Kippour, éloigne-toi quelques minutes avant. C'est une espèce de guéder. La Torah veut éloigne-toi un peu plus, comme quelqu'un qui a un rendez-vous très important. Tu as un rendez-vous avec le Premier ministre à 10 heures le matin. Le type qui a 10 heures le matin, il a un rendez-vous et il a besoin d'une demi-heure de la maison jusqu'à le truc là-bas. Eh bien, il ne part pas à 9h30. Il part plus tôt. Pourquoi? Il prévoit d'être un quart d'heure avant le rendez-vous. Il est déjà là-bas, au moins 10 minutes avant. Il n'y arrive pas à 10 heures. À 10 heures, c'est le rendez-vous. À 10 heures, on rentre. Donc, tu es toujours 10 minutes avant, de peur de rater. Il arrive Yom Kippour, il ne faut pas rater, donc 10 minutes avant. Ça, c'est une logique pour dire avant. Et pourquoi à la sortie? Pourquoi à la sortie de Kippour, il faut ajouter?
Même raisonnement.
De peur qu'il va commencer à manger un peu tôt. Il a déjà faim. Ça y est, il attend déjà, il veut faire Havdalah. Ça y est, à 19h, c'est terminé Kippour. Ça va, mettre déjà Abdallah. Clac, il se trompe le monde. Le monde peut se tromper et il va manger 5 minutes plus tôt. Donc la Torah nous dit, tu es obligé d'attendre encore quelques minutes de plus. Maintenant, combien il faut attendre de plus? C'est combien le Tosefet? Il n'est pas marqué dans le Gemara combien. Alors, nous sommes ici. Alors, Quel est maintenant le pourquoi la sortie de peur qu'on va commencer à manger avant. Ça, on comprend pour Kippour. Pour Kippour, il faut jeûner, donc on va manger trop tard, on va commencer à manger trop tôt. Mais Shabbat, c'est des travaux. La même chose, il est en train de faire un travail, il arrive avec la voiture à la maison. Si tu es obligé de commencer le Shabbat que pile quand il entre le Shabbat, il est au milieu de rouler et il va rentrer le Shabbat. Donc, la Torah nous dit, tu vas le faire. Mais combien? Est-ce que 10 secondes, ça suffit? Est-ce que 30 secondes? Est-ce qu'une minute, ça suffit?
A priori, oui.
Mais le Rosh, il ne dit pas a priori.
Pour l'entrée, le Shulchan Aruch,
il dit... les achilat pras, le temps de manger.
Pour l'entrée, le Shulchan Aruch, il dit aussi.
Alors, le Rosh, il dit que le Tosefet Shabbat, il n'est pas un mashu. Alors, il apporte une preuve atomique. Quelle est la preuve? Il est marqué dans la Gemara, que quand une femme, ou pas une femme, un homme aussi, quand tu vois des gens qui ne sont pas instruits et qui ne connaissent pas le din de Tosefet Shabbat, et ils mangent pendant la laps du temps de Tosefet Shabbat, et tu sais que si tu leur dis quelque chose, ils ne t'écouteront pas, tu n'es pas obligé de leur dire. Il y en a halakha comme ça. Quand on voit des gens transgresser la Torah, et il faut leur dire, il ne faut pas faire ça, il t'écoutera. Mais si tu as un doute s'il t'écoute, tu dois aussi dire. Et si tu es sûr qu'il ne t'écoute pas, c'est mieux de se taire. Mais seulement pour quelque chose qui n'est pas marqué clairement dans la Torah, et qui soit midrabanan, soit qu'on déduit par un drasha. Mais ce qui est clairement marqué dans la Torah, on est obligé de dire... même s'ils ne t'écoutent pas. Il faut que les gens ils savent ce qui est marqué dans la Torah. Donc, la Gemara nous dit, si tu vas quelqu'un manger Kippour, malgré que si tu lui dis, il ne t'écoutera pas, il faut lui dire. Mais si quelqu'un mange pendant ton Sefet Kippour, alors, comme ce n'est pas marqué une fois dans la Torah, c'est qu'une drasha, si tu sais qu'il ne t'écoute pas, tu n'es pas obligé de le dire. Alors, la Roche, il pose la question. Si nous allons dire que ton Sefet Shabbat, c'est 10 secondes, c'est 20 secondes, comment c'est possible que cette personne transgresse Tosefet Shabbat, mais ne transgresse pas le Shabbat? C'est-à-dire, s'il transgresse, Yom Kippour, s'il mange pendant Kippour, tu dois l'empêcher, tu dois lui dire. S'il mange pendant Tosefet, tu n'es pas obligé de lui dire s'il ne t'écoute pas. Et donc, si je dis qu'il mange pendant Tosefet, c'est-à-dire, mais il respecte Kippour. La personne lui dit, écoutez-moi, monsieur, Kippour, je respecte. Dès qu'il rentre Kippour, j'arrête de manger. Mais dans notre Tosef Kippour, s'il vous plaît, monsieur, ce n'est pas marqué dans la Torah, moi je mange. Arrêtez de me faire des drachotes, je ne vais pas écouter. Sur cette personne, la Gemara nous dit, on n'est pas obligé de l'empêcher. Maintenant, si nous allons dire que 30 secondes, Tosef Shabbat, c'est 30 secondes, donc comment la personne peut manger pendant les 30 secondes et s'arrêter pile? Personne ne sait qu'on sait pile. On ne peut pas commencer pile. Donc, forcément, il va transgresser Kippour. Et si transgresse Kippour, il faut que je lui dise, monsieur, on n'a pas le droit. Donc, la Roche, il prouve que c'est plusieurs minutes. C'est un certain laps du temps. Et il dit, je sais qu'à 6 heures, c'est la nuit. Et maintenant, vous me racontez qu'il y a encore 6 minutes avant, ou je ne sais pas combien. Il faut déjà arrêter à 6 heures, moins 6 minutes. Ah non, j'ai encore 6 minutes, j'ai encore 5 minutes et demie manger. Je mange encore 5 minutes. Il ne peut pas manger jusqu'à la seconde près. Ça, c'est pas possible. Je répète la preuve du Rosh. Le Rosh, il dit, la Gemara nous dit qu'un homme qui mange pendant Tosefet Kippour, mais qui respecte Kippour, s'il mange dans le Tosefet Kippour, tu n'es pas obligé de l'empêcher. Voilà ce que dit la Gemara. Donc, le Rosh, il dit, ici, je prouve qu'avec 3 secondes, on n'est pas yotze Tosefet Kippour. Parce que si on est yotze avec Tosefet Kippour avec 3 secondes, dans ce cas-là, le cas de la Gemara, et la personne mangeant la Tosefet et respecte Kippour, c'est une personne qui aura une montre suisse et il mange dans les 3 secondes et pas après. Et comme personne n'a la montre suisse, c'est une preuve que ce n'est pas 3 secondes. Voilà, c'est ce qu'elle a refait. Alors, on va continuer. Maintenant, combien de minutes? Il n'est pas marqué dans les postes qui me convient. Normalement, le monde dit minimum 6 minutes. Comme ça, c'est la coutume. On va continuer à Gemara. Vetana de etzem, haibeti shalachodesh maïvedli. Hier, on avait un mandamak qui dit etzem ayomazé. Il est marqué pour travailler ceux qui travaillent etzem ayomazé, ils transgressent. Il y a un autre etzem, pour ceux qui mangent, ils transgressent. Etzem, etzem. Et donc, on a fait un xerashava. Donc, ici, on a appris qu'il y a un lave, pour pas manger Yom Kippour. Alors, la Gemara demande, ceux qui t'apprennent etzem, etzem, qu'est-ce qu'il fait avec la dracha? Qu'est-ce qu'il fait avec la dracha de BRF, BRF avec ce pasouk? Mais il a besoin pour la braïté que Rabbi Beressi l'a dit. Dame Rabbi Beressi, au nom de la Chia Barav, midifte. Le Tan Chia Barav, midifte. Le marqué, vinitem et nafshotichem, betisha. Vous allez faire souffrir votre corps, betisha, le neuf. Chi betisha, mitanim? Valabé assor, mitanim. Comment tu dis que quoi? Qu'il doit jeûner le 9. Mais on ne jeûne pas le 9. On jeûne le 10. Comment la Torah nous dit, Betisha la Chodesh, elle a l'omar la chasse pour t'enseigner. Kola ochel vechote betchi'i, c'est-à-dire un dracha, ce n'est pas le pshat. Pshat, il est Betisha la Chodesh ba'erev, tu jeûnes le soir, pas le 9. Mais une première lecture veut dire, Betisha la Chodesh, on jeûne le 9, on ne jeûne pas le 9. Pour te faire une allusion, Kola ochel vechote betchi'i, chacun qui mange et qui boit le neuf, mal et à la vakatouf, la Torah lui considère une récompense qui ilou itane de Shiva en Syrie, comme s'il aurait jeûné le neuf et le dix. Quand la Torah nous dit jeûner le neuf, c'est-à-dire comme si tu jeûnes le neuf. On te donne une récompense si tu jeûnes le neuf. Mais non, il ne faut pas jeûner le neuf. Il faut manger le neuf. Si tu manges le neuf, la Torah te récompense comme si tu avais jeûné deux jours. Alors, c'est quoi la logique de cette histoire? Parce qu'on mange le neuf, ça veut dire, à condition que tu jeûnes le dix. Ceux qui mangent le neuf et le dix, c'est pas seulement, il n'est pas récompensé pour avoir jeûné le dix, parce qu'il a mangé le dix, mais il ne sera pas récompensé non plus pour avoir mangé le neuf. Si tu manges le neuf et tu jeûnes le dix, la Torah te donne une récompense comme si tu aurais jeûné le neuf et le dix. Alors, quelle est la logique de ça? Quelle est la logique? Parce qu'il mange le neuf.
Tu souffres plus le dix. Si tu manges bien le neuf, tu souffres plus
le dix. Ah bon, ceux qui jeûnent le neuf et le dix, ils souffrent moins que ceux
qui jeûnent son estomac. Celui qui habitue son estomac à pas manger, il souffre moins.
Non, c'est le contraire.
Ceux qui mangent bien le 9 et jeûnent le 10, ils souffrent moins.
Non, plus. C'est le contraire.
Ils souffrent plus.
C'est pour donner des forces pour le jeûne.
Oui, pour donner des forces, oui.
Voilà.
Quelle est la récompense? Pourquoi il est récompensé?
Ben comme ça, au moins, grâce au fait qu'il ait mangé le 9, qu'il ait bien mangé et que c'est une mitzvah, eh ben, il a la récompense, c'est qu'il va jeûner le 10. Et comme il va jeûner le 10, il va écouter la Torah.
Voilà, ça veut dire, celui qui va commencer à manger, à jeûner le 9, alors peut-être le 10, il va craquer, et le 10, il va manger. Alors, donc, si tu jeûnes le 9, et le 10, tu vas craquer, tu vas manger 10, tu vas transgresser. Mais moi, je ne veux pas transgresser le 10. Alors, je prends mes précautions. Pour pas être obligé de manger le 10, je vais manger le 9. Comme ça, j'ai de la force pour jeûner le 10.
Mais en quoi c'est une récompense?
Donc, le fait de manger le 9 montre que tu as de Yirat Shamayim, que tu trembles à ce shalom de manger le 10. Pour pas arriver à la Avera de manger le 10, tu prends des précautions. Donc, prendre la précaution pour faire une mitzvah, c'est aussi une mitzvah. C'est comme quelqu'un, il va acheter un loulav. Alors, il y a des gens qui vont acheter le loulav trois heures avant la fête. Mais si tu vas 3 heures avant la fête acheter un loulav, peut-être les marchands du loulav sont déjà partis et tu rates et tu n'auras pas de loulav. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Zeriz? Il achète le matin ou il achète 2 jours avant. Ce qui veut être sûr qu'il a un bon loulav, il se prend tôt. Ce qui est mezalzel, j'ai d'autres choses à faire. Bon, 3 heures avant Shabbat, avant Sukkot, je vais aller et je vais même chercher un loulav. Et après, dans la dernière seconde, tu rates. C'est comme les gens qui doivent faire un examen. Alors, il y a des gens qui se prennent à l'heure et 3 mois avant l'examen, ils bossent comme des malades. Il y en a des élèves, ils prennent ça. Ben non,
je ne le dis alors. Pourquoi
et 3 jours avant le bac, je vais commencer à réviser et après, on rate. Rashi, quand la ochel va chôter, chaque qui mange qui boit, hachimash makra, v'initem betisha. Vous allez faire souffrir betisha. Klomar. Klomar, ça veut dire, il ne faut pas prendre ça à la lettre. Il y a un truc. Klomar, ça veut dire qu'il y a un truc. Klomar. Atken atzmacha betisha. Prépare-toi le 9. Kedeje tuchal lihinat basara. Afin que tu puisses jeûner le 10. Afin que tu puisses jeûner le 10, prépare-toi. Comment je me prépare? Un homme qui doit jeûner demain, comment il se prépare aujourd'hui pour s'assurer qu'il peut bien jeûner demain? C'est qu'il mange aujourd'hui. Mida apikra belashon inouï. Et parce que la Torah utilisait l'expression inouï, v'initem et nafshotechem betisha la chodesh. Pourquoi la Torah utilisait belashon inouï? Pour te dire, harehu ke ilu mitane betisha. Comme s'il aurait jeûné betisha. Donc le bon Dieu, il va te compter comme tu as jeûné betisha.
Mais ça, je suis d'accord, mais il y a un petit point qui est bizarre, c'est que si on mange bien et qu'on va pouvoir, comme vous avez expliqué, bien supporter le jeûne et faire accomplir la mitzvah de jeûner, on diminue le inouï.
C'est vrai, par contre…
Donc la limite, elle est…
Oui, j'ai entendu. Par contre, si on ne mange pas, on risque de tomber dans les pommes et être obligé de manger Kippour. Et ça, c'est le pire. Donc, pour pas tomber dans le pire, vas-y, mange le 9, malgré que tu vas moins souffrir le 10. Mais au moins, je m'assure de pas être obligé de manger le 10, et au moins de pouvoir jeûner le 10. Ne sera pas trop tzaddique. Un homme, il va être trop tzaddique. Moi, je mange très peu le 9, et je vais souffrir le 9 et le 10. Et le 10, je vais souffrir terriblement, parce que déjà le 9, j'ai presque jeûné. Et comme ça, je vais souffrir l'archi-souffrance de 10. La Torah nous dit, ne joue pas ce jeu, parce que peut-être tu ne seras pas capable. Après, tu seras obligé de manger le 10. Ne sois pas trop sadique. Mange le 9 et assure-toi de pouvoir jeûner au moins le 10.
Moi,
tu ne seras pas archi-souffrant.
Pourquoi juste Yom Kippour, cette mitzvah, on nous prévient de faire un truc avant?
Parce que c'est pas, parce que pour le travail, je peux travailler 2 mois avant aussi, je peux faire le Shabbat. Mais manger, quand on ne mange pas le 9, le 10, on risque de craquer. C'est très grave de craquer le 10.
Mais pourquoi les autres jeunes, on n'est pas prévenus de manger avant?
Ça n'existait pas des autres jeunes. Ou de Ramadan, vous voulez dire?
Non, le 9 av, tout ça.
Le 9 av n'existait pas dans la Torah. Personne ne nous a obligés de faire des averot pour faire les détruire le Beth Amikdash. Okay. On ne nous a pas demandé de fabriquer un Tisha B'Av. Il n'y a qu'un jeûne dans la Torah.
Donc, il y aurait une mitzvah de manger le 9. C'est une mitzvah et non pas comme on mange tous les jours. Il n'y a pas de mitzvah de manger tous les jours. Mais le 9, il y aurait une mitzvah de manger.
Voilà, exactement. Exactement, c'est une mitzvah de manger. Un mitzvah de manger parce qu'avec ça, tu te rassures de pouvoir jeûner et de ne pas craquer pendant qu'il... Alors, on va continuer.
La Mishnah nous a dit que s'il a mangé des aliments qui ne sont pas raouis de manger, il mange un ochel qui n'est pas raouis de manger. Alors, la Mishnah nous dit il est pas tour. Amarava, Rava, il avait dit, kas pilpele veyome de kipure. Kas. Un homme qui mange bizarrement. Kas veut dire toujours manger bizarrement. Pilpele. C'est quoi pilpele? Pilpel. Pilpel, on a la coutume de traduire.
Des piments.
De poivre, piment.
De poivre, on a la coutume de traduire. Poivre. Qu'est-ce que c'est le poivre? Il y a toutes sortes de poivres. Il y a des poivres rouges, des poivres noirs. Des fois, c'est des poules. Des fois, c'est des. Je ne sais pas.
Non, le rouge, c'est des poivrons, c'est plus la même chose. Le poivre, c'est des graines poules. Noires. C'est des graines noires.
Poules. Des petites poules.
Des poules noires, ça, c'est le poivre. C'est
toujours noir, il n'y a jamais rouge?
Non,
il y a rouge. Si, bien sûr, il y a rouge. Bien sûr, il y a rouge.
Des petites boules dures, des boules dures. Je pense qu'il y a noir, il y a jaune, il y a vert, il y a tout.
Le rouge, c'est des piments, c'est pas tout à fait la même chose.
Vous parlez des piments, les grands. Je parle pas de ça. Vous parlez langues. Allez, c'est les piments langues, là. Et je parle de petites boules. Est-ce que ici, casse, pilpelé, est-ce que c'est les langues? Est-ce que c'est les piments langues ou c'est les petites boules? Casse. Casse, c'est mâché bizarrement. Alors, je ne sais pas lesquels. Casse, pilpelé. Biom de Kippour, et ceux qui mangent les pilpel du jour de Kippour, il n'est pas tour. Pourquoi? Rashi, lisons Rashi. Pourquoi il n'est pas tour? Enze yishuv hada'at. Ça ne calme pas. Enze derech achilato. C'est pas normal. C'est un manger pas normal, donc ça ne donne pas du yishuv hada'at. Ça ne crée pas la satisfaction. Kas,
zang, de toute façon, il ne les a pas avalés.
Ouais.
Il ne les avale pas.
Oui, on parle qu'il les a avalés, on parle.
Alors, ça contredit tout ce qu'on a dit avant.
De quoi tu parles?
On a dit que c'était une quantité de nourriture qui rentrait. Deux pages avant, on a bien dit.
C'est juste. Il faut manger. Mais s'il faut manger quelque chose de normal, quelque chose qu'on mange de façon normale, mais si ça te brûle la bouche, tu n'es pas tour.
Ce n'est pas de la nourriture. Il faut que ça soit nutritif, c'est pas nutritif.
Non, on n'a jamais dit ça. J'ai pas besoin de nutritif. Non. Les champignons sont pas nutritifs et aussi on est chaya.
Ah d'accord.
Ouais, c'est quoi le NZ derech hadat? C'est-à-dire qu'il les mâche, peut-être qu'il les avale pas, non?
Non, s'il les avale pas, il est pas tour. Ceux qui mangent pas aussi, il est pas tour. Tu sais, je te tiens à chitouche.
Si ceux quelqu'un met dans la bouche,
il ne transgresse pas.
Il met dans la bouche un morceau de sucre. Il n'est pas tour, il est chayav.
Il a avalé ou pas?
Sans avaler. Mais ça c'est rentré dans son corps par la langue. C'est pas tour ou chayav?
Il a mis dans la bouche, il a avalé ou il n'a pas avalé?
Sans avaler, que sous la langue.
Sans avaler, il n'est pas tour. Sans avaler, il n'est pas tour.
C'est un derech achilato? Ou bien c'est parce que c'est...
Non, si on n'avale pas, on n'est pas tour parce qu'on n'a pas mangé. Sauf qu'il ne mange pas, il n'est pas tour, tu sais. C'est un chitouch, mais c'est un chitouch.
Enze yishuv hada'at, ça veut dire quoi?
Quand on n'a pas avalé, on n'est pas tour, monsieur. Quoi?
Enze yishuv hada'at, il n'a pas été rassasié.
Ça n'a pas calmé, oui, ça ne calme pas.
Pourquoi? Parce qu'il faut
il faut un kif de achila. Il a avalé, mais ce n'est pas un kif.
Alors, comme on dit, s'il il englobe cette chose-là dans du sucre et ça devient un kif, alors c'est bon, il a payé un issour.
Ah, si quelqu'un il va mélanger du pilpel avec du sucre et le sucre il va faire que tu ne sens pas la piquanterie du pilpel. Est-ce que dans ces cas-là, tu es chayav ou pas? On verra après dans la Gemara que oui.
Même si tu le sens. Même si tu le sens.
Hein?
Même si on le sent. Si je prends du thon avec du pelpel, on ne va pas me... Même si on le sent, si on l'accompagne de quelque chose d'autre, c'est même si on le sent.
Si on accompagne avec quelque chose, comme c'est la coutume de manger un peu de pilpel avec du pain, il va manger du pain avec un peu de pilpel dessus, comme il a la coutume de manger. Là, il est chayav. Et le pilpel peut s'additionner à la mesure de côté vête. Oui.
Alors, si Rashi dit c'est pas derech achila, est-ce qu'on peut déduire que l'huile d'olive pure comme ça, c'est aussi pas tour?
Alors.
Parce que
l'huile d'olive, c'est basique. Non, mais c'est basique. L'huile d'olive, c'est marqué dans Brachot.
Donc l'ichora, oui. Parce que Rashi dit là-bas, d'après Rashi, la Gemara elle-même, ce n'est pas moukhrach. Dans la Gemara, j'aurais pu dire, il boit de l'huile d'olive, il ne fait pas de bracha parce que ce n'est pas un grand kif. Il n'y a pas de bracha. Mais Rashi ajoute, c'est parce qu'il marque ochal, vachalta vesavatu berachta. Il y a un din de achila. Rashi nous dit de l'achila, ce n'est pas seulement pour Birkat Amazon, c'est pour la bracha rishona. Donc pourquoi il fera aborer pris un être sur l'huile d'olive? Ce n'est pas une achila. Et Rashi, vous pouvez déduire. Ce n'est pas une achila. Alors, si ce n'est pas une achila, on devrait être pas tour qui pour l'ichora. Mais je ne suis pas 100% sûr que c'est exactement le même dinim. Mais l'ichora, oui. On va continuer la Gemara. Kas zangbile beyomet de kippour et pas tour. Ceux qui mangent zangbila dans ville, c'est du gingembre, c'est très piquant. Et Yom Kippour, pas tout.
Kass, c'est quoi la traduction de kass? C'est manger vite? C'est quoi?
Kass, c'est manger pas normalement.
Mais alors, donc, c'est pas le produit. C'est pas le produit qui est pas normal. C'est,
non.
C'est, il mange c'est, d'une c'est... autre façon.
Non, non. Le mot kass, on est utilisé pour toutes sortes de façons manger pas normales. Soit que la nourriture n'est pas normale d'être mangée, soit la façon comment tu avales pas normal. Et, ou soit que la nourriture n'est pas normale d'être avalée, donc on appelle ça aussi casse. Ça, c'est le sens du mot casse. Paye Aleph Amoud Aleph. Tourne la page, chef. Regarde en haut. Paye Aleph Amoud Aleph, en haut. Zar, ici c'est marqué Zar, chez Kosses, c'est Orim, chez le Trouma. Un Zar qui est Kosses, d'orge de Trouma. Qu'est-ce que dit Rashi en haut? La première Rashi en haut, Kosses, et Aleph Amoud Aleph. Tu as qu'à, je Kosses, Kol Devar Shu Ochlo Shudor Der Hachilato. Chaque chose qu'on mange pas normalement, car il est Kosses. Et manger de l'orge, c'est pas normal.
C'est rongé, Kosses, c'est rongé.
J'ai pas entendu.
Kosses, ça veut dire rongé.
Kosses, c'est rongé.
Ronron.
Habituellement, on traduit grignoter dans les.
Mais ce n'est pas ici, c'est pas ici, ça, ce n'est pas dans la Gemara. Pas dans la Gemara. Rashi ne dit pas ça. Ni c'est pas rongé, c'est pas rongé. Kosses, manger pas normalement. Alors, on va continuer. Manger bizarrement. Mais pas seul, mais pas forcément bizarrement. Jusqu'on sera pas tour de Achila. Il peut y avoir un Kosses qu'on est Chayav. Kosses, ce n'est pas la normale. Mais pas besoin de la darga de pas normal jusqu'on sera pas tour pour Machel Motasurot. Je peux m'imaginer que la Gemara nous dit ce qui est Kosses de Shimgom, ce qui est Kosses de Popcorn. Peut-être aussi, ce n'est pas normal. Mais Vadaï, on est Chayav si on mange. Ce n'est pas une Achila, ma mâche normale. Alors, on va continuer. On pose une kushya. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait, Mimash Moshe Neemar, il est marqué Varaltem Orlato et Pirio. Vous allez vous refuser de manger les fruits les premières trois années. Les fruits d'un arbre, les premières trois années, on ne mange pas. Alors lisons, Vayi Krayutet. Lisons le pasuk, Vayi Krayutet. Alors, où c'est Vayi Krayutet? Vayikra Yutet, c'est où?
Chav Gimel. Chav Gimel.
Chav Gimel. Alors, chapitre Yutet, pasuk Chav Gimel. Vechitavo el Aretz. Quand vous allez rentrer dans la terre, unetatem kol etz ma'achal, vous allez planter tout arbre ma'achal qui produit des nourritures. Varaltem orlato et pirio, vous allez vous refuser de manger son fruit. Pendant trois années, vous allez vous refuser. L'oyachel, il ne sera pas mangé. Alors, on parle d'un arbre etz ma'achal, un arbre fruitier. Vous allez refuser de manger son fruit. Alors, donc, la kusha de la Gemara, pourquoi la Torah nous dit un arbre fruitier? Même si tu dis un arbre sans le mot fruitier, tu comprends tout seul qu'on parle d'un arbre fruitier, étant donné la Torah nous dit tu refuseras de manger son fruit. Donc, si c'est son fruit, donc il s'agit d'un arbre fruitier. Voilà la question de la Gemara. Varaltem orlato et pirio, en yodeh etz ma'achal. Où est-ce que je ne sais pas qu'il s'agit d'un arbre fruitier? Elma talmud lomar etz ma'achal. Pourquoi la Torah nous dit un arbre fruitier? C'est un truc spécial. Etz ma'achal. C'est pour dire etz sheta'am eitzo. Ou pirio chavé, un bois, un arbre que le goût de son bois ou pirio et de son fruit chavé, ils ont le même goût. Eve Omer, ze pilpelin. Il s'agit du pilpelin. L'arbre de pilpelin, son goût est le même goût que le pilpel. Comment c'est possible? Alors on n'a qu'à manger l'arbre.
On avait le hétrog pour ça.
Il a le même goût que le fruit. Eh bien, d'abord, est-ce qu'on peut manger un arbre? On ne mange pas du bois. On va le cuire.
Mais le pilpel, c'est une plante, c'est même pas un arbre. C'est un truc qui va tomber une année, qui va que ce soit du poivre. Ah non, pas le poivre, pardon. Si c'est le pilpel, piment ou poivron, c'est une plante annuelle qui s'en va. En revanche, le vrai poivre, il pousse sur un arbre. Alors peut-être le goût du bois, effectivement, c'est le goût.
Ici, or là, c'est que pour les arbres.
Bon, alors on parle de ce vrai poivre, alors.
On parle d'un arbre de pilpel. Pilpel, c'est quelque chose qui pousse sur un arbre. Mettons un arbre, c'est du bois. Le bois, on ne mange pas. Ça veut dire quoi? Le goût de l'arbre, il a le même goût que le pilpel. Pas d'ailleurs que le sens n'est pas la même concentration de piquant. C'est un peu, le sens, il veut dire, si tu vas prendre le bois et tu vas peut-être le lécher, tu vas peut-être le mettre dans la bouche, tu sentiras un peu le goût de pilpel. C'est ça le sens. Et un pommier. Si tu prends un arbre de pommier, tu prends une branche d'un pommier, tu mets dans la bouche et tu commences à sucer. Tu ne sentiras rien du tout d'une pomme. Tu prends d'une poire, d'un abricot, tu ne sentiras pas dans le bois aucun goût de poire, d'abricot.
Mais la menthe, c'est pareil, non, la menthe.
Quoi?
La menthe, c'est pareil. Les tiges, les petites branches de menthe ont le goût de la menthe, parce qu'on les fait infuser.
Oui, mais ce n'est pas une nourriture. Là-bas, ce n'est pas un odorat. Là-bas, il s'agit d'un odorat, pas d'un goût.
On mange pas un arbre. La menthe, ce n'est pas un arbre. Il s'en va d'une année à l'autre.
Oui. Alors, en tout cas, chez pilpel, dans le bois, il y a un résidu de ce goût de pilpel.
Alors, Daniel.
Oui.
Il y a un bois qu'on peut manger, vous l'avez mangé quand il était enfant, c'est la réglisse.
C'est juste.
C'est comme du bois et on le mâche et ça a un goût
C'est pas que vous avez mangé la réglisse. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai mangé la réglisse. Ça coûtait 10 centimes en Suisse et de temps en temps, on s'est à manger des réglisses. Mais c'est un goût un peu bizarre. Oui, mais les réglisses, c'est le bois doux, oui. Il a un peu un goût de ce qu'il a, le goût. Est-ce que c'est la réglisse, il donne des fruits?
Alors,
est-ce que ça donne des fruits?
Peut-être même c'est ce moment-là qu'on a imbibé du goût.
Non, il donne pas de fruits, c'est que le bois qui se suce ou qui se mange.
Mais comment ça se fait que c'est toujours noir? Quand tu achètes au magasin les petits boules là noires, pourquoi il est noir? Les réglisses sont noires, les bonbons de réglisse. Pourquoi ils sont noirs?
Il y en a qui ne sont pas noirs, il y en a qui sont différents. Des fois, on a des poivres qui sont mélangés. On a du rouge, du vert.
Allô.
C'est bizarre quand même. Quand tu prends le bois de réglisse, tu vas le cuire, il va sortir le goût, le machin. Il n'est pas noir. Et au magasin, il est noir. Je ne sais pas pourquoi. Bon. C'est une espèce de réglisse.
Alors.
Daniel,
oui.
Un bouton de fruits, nécessairement, le bois de réglisse, il a un fruit parce qu'il ne peut pas y
avoir. On ne vous entend pas bien. Mettez le micro plus proche.
Il n'y a pas d'arbre qui ne porte autant de fruits parce qu'il ne peut pas y avoir de reproduction de l'arbre sans fruits. Et le problème, c'est est-ce que les fruits sont comestibles ou pas? Mais
le réglisse, excusez-moi, le réglisse, il donne comme une espèce de haricot. Si vous voulez, quand vous avez vous avez une espèce de cosse, vous ouvrez la cosse et vous avez à l'intérieur des petites graines, comme les graines de haricot, c'est avec ça qu'ils se multiplient.
Alors, on va continuer. Eve Omer Zepilpelin. Le Lamdecha, d'ici on apprend, Chapilpelin Chayavim Be Orla. Les pilpes, on est obligé de prélever le Orla. Et quel est le chidouche? Pourquoi j'aurais pu croire qu'on n'est pas obligé?
Parce qu'on pensait que pilpel, c'est peut-être pas un arbre.
Non. Le chidouche n'est pas que pilpel, c'est un arbre. Le chidouche, il est que pilpel, il est chayav ba'orla. Il y a un chidouche que le pilpel, il est chayav ba'orla. Quel est le chidouche qu'il est chayav ba'orla?
Mais il a raison, ça veut dire que c'est un min ilan. C'est ce que dit Rashi, il a raison.
Ça, c'est le sens que Rashi veut dire. Rashi dit le pilpel chayav ba'orla, c'est min ilan. Mais quel est le chidouche?
Parce qu'on aurait pu croire que l'arbre dont vient le pilpel, ça ne s'appelle pas un arbre.
D'accord, Jean, peut-être. Mais moi, j'ai peut-être un autre pshat. En vérité, la Gemara sait que c'est un arbre. Le chidouch, il est que c'est considéré comme un fruit, parce que j'aurais pu croire que les gens ne mangent pas tel quel. On l'utilise que comme condiment. Peut-être quelque chose qu'on utilise comme condiment ne s'appelle pas un fruit. Donc, il n'est pas rayavore là.
Oui, c'est parce que ce n'est pas mangeable.
C'est pas mangeable tel quel. Donc, j'aurais pu croire quelque chose qui n'est pas mangeable tel quel. La Torah n'a pas rendu chayavore là. Amashmelan, que les pilpel dit chayavore là, malgré qu'on ne le mange pas comme ça. Et on apprend une deuxième chose, qu'en Eretz Israël ne manquera rien du tout. Je n'aime pas l'autre terre kolba. Ça veut dire quoi? Que si il aurait manqué le pilpel, eh bien, il y aurait quelque chose qui n'existait pas en Eretz. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout vraiment, il existe en Eretz? Est-ce que tous les fruits du monde entier, ils existent en Eretz? Ou ils pourraient exister en Eretz?
Tout ce que l'homme a besoin, il y a là-bas.
Et le pilpel, l'homme a besoin?
Non, justement.
La Torah nous dit ici qu'on apprend qu'Eretz Israël ont besoin. Même le pilpel.
Alors, il y a besoin. Alors, l'homme, il a besoin.
Les Tunisiens, ils ont beaucoup besoin de people, les Tunisiens.
On a besoin, peut-être pas qu'on a besoin, mais ça enrichit la cuisine. Ça enrichit la cuisine, mais n'importe quoi enrichit la cuisine. Peut-être ça enrichit important, c'est un enrichissement important. Eretz Israël ne manque pas ces choses-là. Je n'ai pas l'autre cerveau. Alors, quelle est la kushya? Donc, on voit que c'est un fruit. Donc, si c'est un fruit, on devrait être chayav qui pour Rashi, metve. Vous avez Rashi, metve almema achal, car il est. La Torah, elle appelle ça un ochel. C'est la Torah nous dit ne mange pas du pilpel. Donc, je vois que c'est un ochel. Donc, on est chayav qui pour. Lokashia, ce n'est pas une kushia. Habiretifta, habiyabeshta. Ça dépend si le pilpel, il est. Le poivre, il est sec ou il est fraîche? C'est le gingembre. Il y a du gingembre fraîche. Il y a du gingembre sec. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit, rétive quand il est fraîche, chazil le meichal, on peut le manger. Et quand il est sec, on ne peut plus le manger. Ce n'est plus une nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire, il est fraîche? Nous, le gingembre, vous avez déjà vu le gingembre, on le vend à l'avenue du 8 mai. Il est fraîche ou il est sec, celui-là?
C'est quoi le gingembre?
Et le gingembre, eh bien, tu vas descendre dans les escaliers, tu vas partir à l'avenue du 8 mai, tu vas aller au magasin des Africains et tu leur demandes, est-ce que je peux acheter chez vous 50 grammes de gingembre, un morceau de gingembre. Tu vas l'amener à la maison, tu vas éplucher et tu vas couper. Ta mère va le mettre sur un salade et tu vas le manger, tu vas te brûler un peu la langue. Voilà.
C'est un rhizome, c'est comme une racine, le gingembre.
C'est comme le maror des Ashkenazim, c'est comme le c'est...
Je vois.
Oui, alors c'est piquant, mais ça c'est fraîche ou ça c'est sec? Mais ça, mais c'est fraîche.
C'est frais. Ce qui vend ça, c'est frais.
Ça, c'est frais. Et ça, c'est mangeable. Mais mangeable avec une autre chose ou mangeable que lui-même?
Les Africains, ils mangent ça comme ça directement, je crois.
Directement?
Comme ça. Ou ils les mettent dans des salades. Ou... Il y en a qui le mangent comme
salades,
ça direct.
Dans les salades, oui.
Ça leur donne de la force, il paraît.
Il y en a qui le font macérer. Ils l'épluchent et ils le font macérer. Donc, ça reste frais. Et c'est mangeable plus facilement.
Mais en tout cas, c'est sûr que ça s'appelle frais. Et c'est frais, c'est mangeable, peut-être pas seul, peut-être avec autre chose. On le mange avec autre chose. Mais quand c'est sec, c'est nul, c'est plus rien. Ah, voilà, Philippe Allouche, vous avez, vous, est-ce que vous voyez Philippe Allouche dans la télévision? Hein? Je vous pose une question. Est-ce que vous voyez l'autre?
Oui, on le voit.
On dirait une pomme de terre, mais en fait, c'est comme ça. C'est bon dans les sushis, ça se râpe un petit peu.
Aaron Goulet, est-ce que tu vois comment il est?
Je vois quand il parle.
Tu vas chez Philippe Allouche, qu'est-ce qu'il montre?
Voilà. Alors, tu manges ça. Il faut manger pas trop, un peu râpé, mais c'est un peu piquant. Alors ça, c'est considéré comme mangeable. Mais quand il sèche, c'est plus rien. Ça n'a plus aucun goût, c'est rien. Et le pilpel.
En Israël, ils le mettent dans le thé, le gingembre aussi.
Oui. Ils existent gingembre au thé. On peut acheter ici aussi en magasin.
Ici, je n'ai pas vu. En Israël, oui, ici, je n'ai pas vu.
J'ai vu ici. Thé au gingembre, ça existe. Alors.
En fait, ils sont même en Israël, ils ont même réussi à faire pousser le safran, qui est très dur à pousser parce que ça vient d'une fleur. C'est une épice qui est très, très chère. Et c'est très difficile à la faire pousser.
On t'entend pas.
Ouais. Dire en Israël, ils ont réussi à faire pousser du safran. Le safran, c'est une épice. Dis-moi,
Philippe, tu ne veux pas faire une expérience, faire pousser l'argent en Israël. Peut-être ça marche, ça poussera l'argent.
Peut-être. En tout cas, j'ai deux citronniers à la maison et le bois du citronnier sent le citron. Je peux vous dire, c'est sûr.
Le citronnier, il sent le citron.
Ouais. Quand on casse le bois du citronnier, ça sent très fort le citron.
Eh bien, tu parles quand il y a des citrons dessus ou avant qu'il y ait des citrons dessus?
Même avant qu'il y ait des citrons dessus.
Alors, la Gemara, donc, si c'est sec, ça n'a plus aucun sens. Ça n'est plus considéré comme un ma'achal. Donc, notre Mishnah qui nous a dit, il a mangé. Alors, le pilpel, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le pilpel. Le pilpel sec, le pilpel fraîche, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Vous avez déjà vu des pilpels frais, des pilpels secs, c'est quoi ça? Les pilpels que tu achètes au magasin, les petites boules, c'est frais, c'est sec, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si notre pilpel, ce que nous appelons pilpel, c'est ça que la Gemara appelle pilpel. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Bon, on va arrêter ici. Bonne journée.